Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans un sketch daté de 2008, les guignols de Canal+ mettaient en scène un François Bayrou façon John Travolta, chemise orange, col pelle à tarte, lunettes fumées, faisant la tournée de ses anciens amis politiques pour tenter de reformer un grand parti du centre, sans succès. Le sketch se terminait sur cette sentence. Le centre, quand il était à la mode, on écoutait encore du disco. Eh bien, il faut croire que le disco est de retour, car c'est au centre que pourrait se jouer la prochaine présidentielle. François Bayrou en avait rêvé, sans jamais réussir à atteindre le second tour. Emmanuel Macron pourrait y parvenir dans moins de 15 jours et remporter la mise dans un mois. Pour autant, gagner au centre ne signifie pas forcément y gouverner. Tout dépend en fait de ce que l'on entend par ce terme dont la définition a fini par se perdre au fil de la Ve République. S'agit-il d'une façon d'agir, par consensus, par coalition? Bref, s'agit-il d'un style? Et les institutions faites pour le bipartisme sont-elles capables de le faire vivre? Ou bien le centre a-t-il une véritable ossature idéologique? Mais dans ce cas, le candidat Macron est-il vraiment celui qui l'incarne le mieux dans le paysage politique du moment? Le centre peut-il gouverner? Eh bien, nous posons la question ce soir à trois invités, à commencer par vous, Jean Garrigue, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, professeur d'histoire contemporaine et politique à l'Université d'Orléans, vous enseignez également à Sciences Po, spécialiste du centrisme. Votre dernier ouvrage, c'était chez Talendier l'an dernier, Élysée Circus. Pour discuter avec vous, Marie-Ève Malouine, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, vous présidez la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Vous avez publié chez Stock en 2016, fin 2016, Seul en son palais, pourquoi nos présidents s'enferment-ils à l'Élysée? Et puis troisième invité, Nicolas Sauger, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, professeur associé à Sciences Po. Vous avez fait une thèse sur l'UDF. Vous me disiez hors antenne que vous étiez un des rares dans le monde à avoir consacré votre thèse à ce parti politique. Pourquoi détestons-nous autant nos politiques? C'est l'ouvrage que vous venez de publier aux presses de Sciences Po, ouvrage coécrit avec Emiliano Grossman. Alors je voudrais qu'on démarre par une question de pure actualité politique liée donc à cet avant-premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous considérez que les uns et les autres, avec la candidature d'Emmanuel Macron et son niveau, qui est toujours haut dans les enquêtes d'opinion, que le centre est aux portes du pouvoir, Marie-Ève Malouine?
Alors, je ne vais pas parler sur les portes du pouvoir. On verra, cette campagne est tellement exceptionnelle que c'est difficile 15 jours avant de prévoir ce qui va se passer. La question, c'est est-ce que Emmanuel Macron représente le centre? Finalement, je ne pense pas. Je pense qu'il rejette et la droite et la gauche. Il les agglomère en même temps en disant ni droite ni gauche. Mais je ne crois pas qu'il soit fondamentalement centriste. Mais il utilise les codes du centrisme pour qu'on considère qu'il est au centre. Et puis, il y a eu la pluie de François Bayrou, donc qui l'identifie au centre. Mais lui, je ne pense pas qu'il soit vraiment un centriste.
Jean Garrigue.
Alors, si on se réfère à l'histoire du centre, Emmanuel Macron n'appartient pas au fond à ce qui était un peu l'ossature de cette famille, c'est-à-dire la tradition démocrate chrétienne, qui vient d'ailleurs du christianisme social du 19e siècle. C'est une très très longue famille. Pour simplifier, on pourrait dire que cette famille s'est retrouvée sur un certain nombre de thématiques au 20e siècle, sous la 5e République, qui sont un certain humanisme social qui la distinguait de la droite classique, une forte propension et un fort tropisme européen, voire européiste, qui est là aussi un élément de définition très très fort dans leur histoire, et puis aussi un attachement, je dirais, à la République parlementaire, au parlementarisme, à l'équilibre des pouvoirs, qui les distingue aussi de la droite gaulliste, on va dire, ou gaullienne.
Et si l'on retient ces trois éléments, est-ce que tous correspondent à ce qui à Emmanuel Macron? Puis il y en a justement qui pose problème.
Vous voyez la sensibilité de l'humanisme social. Bon, on peut la retrouver chez un homme comme Macron qui se réclame d'une culture de gauche, mais sans la dimension chrétienne qui a quand même été très importante dans l'identification du centre. Alors c'est vrai, comme le disait Marie-Ève Malouine, il y a François Bayrou aux côtés de d'Emmanuel Macron qui incarne justement cette tradition, mais on voit bien que la définition culturelle d'Emmanuel Macron elle est à côté de cette tradition du centre.
Je termine ce premier tour de table avec vous, Nicolas Sauget.
Alors, ce n'est pas pour le plaisir de prendre le contre-pied, mais je vais pouvoir dire qu'Emmanuel Macron est bientôt centre sans forcément être centriste. Et c'est là que je vous rejoindrai pour un certain nombre. Mais si on voit le centre plutôt comme une capacité à s'allier entre deux camps bien définis, qui sont les camps traditionnels en France, la gauche, la droite, Emmanuel Macron, il reprend ce positionnement qu'avait en partie François Bayrou à une époque, d'être celui en capacité de pouvoir appeler à voter à gauche ou à droite, ou éventuellement que certains soutiens viennent de la gauche ou de la droite. Et de ce point de vue-là, il a un positionnement relativement rare dans une Ve République qui a été définie par cette opposition nette, hermétique entre la gauche et la droite. Et de ce point de vue-là, on peut dire que d'un point de vue de la position stratégique, il est bien au centre du jeu politique, même s'il n'est pas forcément centriste. Mais par rapport à François Bayrou, je crois que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, François Bayrou, il incarnait cette tradition démocrate chrétienne initialement. Mais il faut voir aussi que dans la période plus contemporaine, notamment à partir du moment où il a ses succès, en fait, il se détache de cette tradition démocrate chrétienne, et c'est à partir de ce moment où il se détache de cette tradition démocrate chrétienne qu'il va commencer à avoir des véritables succès électoraux. Et donc, de ce point de vue-là, la différence entre Emmanuel Macron et François Bayrou n'est pas forcément énorme.
Est-ce que ce qui ressort finalement de vos premières interventions, ça n'est pas justement une des problématiques à laquelle est confronté le centre, au moins depuis ces dernières années, mais l'historien que vous êtes, Jean Garrigue, nous dira si c'est une problématique qui remonte à des temps plus anciens, qui est que on a du mal finalement à définir ce qu'est le centre et le centrisme aujourd'hui. Est-ce que c'est justement répondre à des codes, auquel cas ce serait une forme de positionnement électoral, ou bien est-ce qu'on est sur un corpus idéologique qui permettrait de dire voilà, telles idées sont au centre, et ce qui ne relève pas de ces idées-là est ailleurs, Marie-Ève Malouine.
Je pense que la difficulté concernant Emmanuel Macron, c'est qu'on n'a pas vraiment la lecture de sa colonne vertébrale idéologique. Il se positionne politiquement dans le rejet d'un système politique, de la droite et de la gauche. C'est là où il peut apparaître comme centriste, et ça, il le revendique. Il a quitté le gouvernement sur cette question-là. Il était arrivé au bout du système politique. Et en même temps, il n'a pas cette culture de l'équilibre politique parlementaire. Et lui-même avait dit qu'il n'avait pas d'intérêt, vous voyez pas l'intérêt d'être député. Et la grande inconnue pour cette présidentielle, c'est que certes, il y a la présidentielle, mais après, il y a les législatives, et on ne sait pas comment Emmanuel Macron envisage le pouvoir présidentiel par rapport au Parlement. Il tarde à désigner ses candidats aux législatives, et donc ce sont des gens qui vont avoir 4-5 semaines pour faire campagne, même pas, et on ne sait pas sur quelle méthode de gouvernement parlementaire ils vont se présenter et ils vont porter. Et
c'est là peut-être où une méthode qui se rapproche de celle qu'il adopte aujourd'hui dans les débats politiques, c'est-à-dire en donnant raison un coup un petit peu à ceux qui sont à sa gauche et puis un coup à ceux qui sont sur sa droite.
Ça veut dire des majorités relatives et des majorités qu'il va construire au fur et à mesure, mais il ne l'a pas exposé, il ne l'a pas dit cela, et au contraire, dans sa pratique actuellement, on voit plutôt quelqu'un qui a un pouvoir présidentiel fort, parce qu'en marche, on a l'impression qu'il y a Emmanuel Macron et tous les autres au même niveau. Il n'y a pas d'entourage, d'exécutif autour de lui, tout passe par lui, donc il incarne quand même un mouvement, un pouvoir assez présidentiel, assez fort, et on ne sait pas comment il va composer au Parlement. Alors, peut-être ce sera des majorités de circonstances, et ce qui signifie à ce moment-là une instabilité.
Et est-ce que justement cette question des majorités de circonstances, Jean Garrigue, ça n'est pas une des définitions de ce qu'est le centre en politique ?
En tout état de cause, là encore, si on se réfère à une très longue histoire du centre, il y a des moments où, au tout début de la Troisième République, par exemple, des centristes ont été au pouvoir, des gens qui se disaient du centre et qui étaient capables justement de majorité alternative, de majorité d'idées sur un certain nombre de points. On peut dire que ça a été le cas dans une autre forme institutionnelle du régime des partis de la 4e République, où les centristes étaient alliés au gouvernement avec des socialistes ou avec des indépendants, c'est-à-dire des gens de la droite à l'époque. Je pense que fondamentalement, c'est pas un scoop de le dire, Emmanuel Macron est quand même dans la transgression de ce qui a été la bipolarité traditionnelle, le système majoritaire tel qu'il existe sous la 5e République, et donc et ceux qui sont autour de lui, notamment François Bayrou et d'autres, vont le pousser dans cette direction, dans cette recherche justement de majorité d'idées. La grande question qui se pose, c'est la compatibilité de cette recherche-là, de ce système de transgression politique avec les institutions de la Ve République. Est-ce que c'est possible de réaliser ce type de majorité qui ont existé, par exemple, sous la Troisième République? Est-ce que c'est possible de le faire dans le système de la Ve République? C'est le challenge pour Emmanuel Macron.
Alors justement, sur cette question des institutions de la Ve République, on peut se poser la question de cette manière. Est-ce que c'est soluble dans les institutions, ou bien est-ce qu'on peut aussi imaginer que la percée d'Emmanuel Macron, on est d'accord, hein, on attend bien sûr toujours les résultats du premier tour et du second tour si jamais il est qualifié, mais est-ce qu'en tout cas cette percée qui n'est pas fictive dans les enquêtes d'opinion, elle ne peut pas être aussi vue comme le signe d'un essoufflement de ces institutions et pourquoi pas de la volonté des électeurs d'en finir avec le bipartisme, enfin en tout cas le bipartisme qu'on a connu depuis 1958, Nicolas Sauget.
Alors pour commencer, je crois qu'il faut revenir un tout petit peu sur l'épisode Rocard, hein, parce que finalement on a eu un exemple et pas si ancien d'un gouvernement qui n'avait pas de majorité absolue au Parlement et qui a pu faire alliance tantôt plutôt sur le centre, en l'occurrence le centre droit, plutôt sur le Parti communiste, pour essayer de faire passer un certain nombre de lois. On voit que ça a eu un certain nombre de limites. Hein, le 49-3 à l'époque était monnaie courante et aujourd'hui cet instrument est beaucoup plus limité. Mais c'était un gouvernement qui a réussi, bon an, mal an, à faire avancer un certain nombre de mesures et à gouverner le Parlement et le mandat était relativement stable. Ensuite, est-ce que les institutions de la Ve République sont compatibles? Oui, déjà, enfin, quelque part, le gouvernement Rocard nous montre qu'il y a une compatibilité, une possibilité. Ce qu'il faut retenir avant tout des institutions de la Ve République, c'est qu'elles sont très adaptables. Les institutions de la Ve République, elles ont permis la cohabitation et on peut tout à fait imaginer encore une nouvelle formule de fonctionnement de ces institutions de la Ve République pour peut-être revenir en fait à ce qui serait l'origine de la Ve République, c'est-à-dire un président qui donne un certain nombre de lignes, mais qui est fondamentalement un arbitre, un faiseur de coalition, mais qui ne gouverne pas et qui nomme un Premier ministre, qui exerce effectivement le pouvoir en relation avec le Parlement. Et ça serait finalement plutôt un retour aux sources qu'une véritable transformation de la Ve République.
Une victoire du centre permettrait de revenir au fondement de ce que devait être la Ve République.
Ben, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense même que c'est l'intention du macronisme. Il ne s'agit pas d'hyper-présidence, il ne s'agit surtout pas de revenir à l'hyper-présidence, il s'agit de redonner un rôle d'arbitre au président de la République, d'avoir une véritable responsabilité, de réintroduire une véritable responsabilité parlementaire. Alors ça passe aussi par beaucoup de réflexions sur le rôle précisément du Parlement et la manière dont doit fonctionner, se remettre à fonctionner le Parlement, notamment en amont dans la préparation des lois dont on sait qu'aujourd'hui elles découlent toutes de l'Élysée ou de ses antichambres. Il y a beaucoup de projets dans la nature en ce moment, à droite comme à gauche d'ailleurs, autour de cette régénération de la vie parlementaire. Mais je pense que dans la mesure où Emmanuel Macron pourrait s'appuyer sur une majorité parlementaire si hétérogène qu'elle soit, mais rénovée avec des nouvelles pratiques parlementaires, cette solution-là est plausible, est possible. Je veux dire qu'on peut revenir à l'exercice initial de la Ve République, dont il faut se souvenir que c'était avant tout un régime parlementaire à l'origine, hein, même s'il a été ensuite présidentialisé à partir de 1962. Et donc, dans ce contexte-là, il est possible d'obtenir ce type de majorité, d'alliance, si vous voulez.
Marie Valouine.
Oui, moi je crois que le système de la Ve permet tout à fait d'autres pratiques et le retour à un système plus parlementaire avec la recherche de consensus, à condition que les députés le veuillent et qu'on revienne sur l'organisation et la recomposition des partis politiques. C'est là que ce que pointe Emmanuel Macron quand il parle de la fin d'un système, c'est lentement, on a quand même... En politique, on récolte ce qu'on a semé et là, on récolte ce qui a été semé depuis très longtemps. Moi, je date ça même de la cohabitation, où on a expliqué aux gens qu'il y avait une cohabitation très offensive qu'il y avait pu y avoir entre Jacques Chirac et François Mitterrand. Et après, avec Lionel Jospin et Jacques Chirac, c'était une cohabitation où on s'entendait sur l'essentiel. Alors, ils se sont tapés dessus énormément, mais sur l'essentiel, la politique étrangère, l'Europe, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait qu'une seule politique possible. Donc le clivage droite-gauche déjà s'affaissait. Il y a eu le référendum sur Maastricht, où les gens, contre toute attente, se sont emparés de cette question. Tout le monde a acheté le texte du traité pour l'examiner. Bon, les gens ont voté, leur vote a été suivi. Ils avaient dit oui. Et on a recommencé en 2005. Et là, les gens ont voté non. Et on a contourné leur vote en refaisant un autre texte, le traité de Lisbonne, qui revenait au texte qui avait été rejeté. Et là, ce clivage, notamment sur la question européenne, qui avait traversé tous les partis, a été mis sous le boisseau. Et on a un clivage politique qui ne correspond plus au vrai clivage qui traverse la société. Et c'est là, ce système-là qui est à bout de souffle et qu'Emmanuel Macron met cela en lumière et apporte peut-être des solutions, on verra soit s'il est élu et puis s'il peut les mettre en œuvre, parce que cela suppose qu'il y a un autre comportement à l'Assemblée nationale, puisqu'on l'a vu sur certains textes, parfois au début de l'examen du texte, des députés de droite disent « ça peut être intéressant, on peut y arriver », et à la fin, la logique du clivage droite-gauche, majorité-opposition, fait qu'ils votent contre, parce que quand on est de droite, on vote contre le gouvernement de gauche, et inversement. Et ça, ce sera une autre pratique, peut-être il faut revenir aussi sur la durée du mandat présidentiel, puisque finalement, 7 ans, c'était pas si mal parce que ça permettait de s'installer, de durer. Alors que là, on le voit, excusez-moi, je suis un peu longue, mais en 5 ans, dès l'élection à peine finie, on pense à la suivante et les partis, que ce soit de majorité ou d'opposition, n'ont pas le temps de reconstituer leur pensée idéologique parce qu'ils pensent au coup d'après. Vite, il faut trouver un leader pour le parti, un leader pour la présidentielle. Et donc, ce travail-là n'est pas fait. Et 5 ans, ça va trop vite.
Nicolas Sauget.
Oui, alors je suis pas sûr que le retour au septennat soit vraiment une solution parce que, enfin, quelque part, on peut toujours chercher les institutions les meilleures, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup réformé les institutions avec les problèmes. Hein. Alors, on a fait ce livre sur la désaffection des Français par rapport à leurs élites politiques. Il a toujours été important et est toujours plus important aujourd'hui. Alors, est-ce que Emmanuel Macron pourrait incarner les nouveaux ou les vrais clivages de la société française? J'aurais tendance à être beaucoup plus sceptique que vous sur cette question parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de vrai clivage en soi de la société française, au sens où c'est bien le travail des partis politiques de mettre en œuvre, de mettre en forme ces clivages. Et de ce point de vue-là, les questions sur l'intégration européenne n'ont jamais été véritablement considérées par les électeurs, si ce n'est éventuellement lors des élections européennes, et encore pas vraiment, comme une vraie raison de choix électoral. Donc il me semble que ce que Emmanuel Macron fait, mais avec Marine Le Pen, mais c'est une dynamique qui est bien plus ancienne que ça, est bien de redéfinir ce que c'est que ce clivage, cet ancien clivage gauche-droite, qui serait un nouveau clivage gauche-droite, quelque part, entre les modernes et les conservateurs réactionnaires que serait le Front National. Et c'est ça qui est en train de se passer dans cette élection présidentielle. Hein. C'est véritablement la capacité d'Emmanuel Macron à être ce que voulait être Mélenchon finalement il y a 5 ans, le principal opposant Marine Le Pen. Et c'est parce que Marine Le Pen est aussi haut dans les sondages qu'Emmanuel Macron peut être lui-même également aussi haut dans les sondages.
Un autre historien que vous, Jean Garrigue, s'exprimait il n'y a pas très longtemps dans le journal La Croix, Mathias Bernard, et qui faisait lui le constat, plus qu'un retour du centre, de l'émergence d'une nouvelle bipolarisation. En gros, finalement, on se retrouverait d'un côté les partis qui pourraient se reconnaître dans les idées au sens assez large du centrisme, et puis de l'autre, alors il évoquait surtout l'extrême droite à l'époque, mais peut-être qui seraient les extrêmes.
Oui, on voit bien se dessiner dans cette campagne justement ces nouvelles frontières du politique. Il est probable que, ou possible en tout cas, que les candidats incarnant les deux grands partis traditionnels du système bipolaire ne soient pas qualifiés au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est bien la preuve que ce système-là est à bout de souffle et que le nouveau clivage, la nouvelle transgression, elle se fait autour de la question du repli identitaire ou de l'ouverture, adaptation au fond du système français européen de l'État-providence à la mondialisation. Comment est-ce qu'on peut continuer à préserver ce modèle de l'État-providence à travers l'ouverture à la mondialisation? Et l'alternative, c'est au contraire de se replier sur le peuple face aux élites, sur l'identité, sur la sécurité. Alors, avec on le voit bien, un embranchement qui mène soit d'un côté vers Marine Le Pen, soit de l'autre côté vers Jean-Luc Mélenchon, dont on voit bien qu'il y a là aussi un certain nombre nombre d'idées qui sont tout à fait en opposition avec celles d'Emmanuel Macron, avec le projet d'Emmanuel Macron. La France insoumise, c'est la France d'un refus aussi, d'un refus de cette ouverture mondialisée. Donc, on est aujourd'hui dans ce clivage, et c'est pas un hasard de voir précisément les candidats qui incarnent ce nouveau clivage en tête des sondages.
Et de quoi est-ce qu'on pourrait voir le choix du centre, en tout cas dans son acception la plus large, comme un choix peut-être rassurant pour un certain nombre d'électeurs, Marie-Ève Malouin ?
Ça peut être un choix rassurant, ça peut être un choix de ceux qui pensent qu'il y a des solutions par rapport à ceux qui pensent qu'il n'y en a pas. Et je pense que ça rejoint quand même le clivage par rapport à l'Europe qui n'est pas porté par les responsables politiques. Mais est-ce que l'Europe, pour schématiser, est une solution ou une contrainte et donc un problème ? Est-ce que la solution est dans le repli sur soi et la contestation de ce qui se passe ? Ou au contraire dans la confiance, dans l'idée qu'on peut s'ouvrir et trouver des solutions? C'est aussi ça, je pense, que porte Emmanuel Macron, c'est cette vision positive de l'Europe, de l'ouverture par rapport à une vision de repli et de contestation et de fatalisme.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Le centre peut-il gouverner ? C'est la question que nous posons ce soir à l'historien Jean Garrigue, à la journaliste présidente de la chaîne parlementaire Marie-Ève Malouin et au politologue Nicolas Saugé. Avant de poursuivre, on parle du centre tout en expliquant que Emmanuel Macron, s'il en reprend les codes, n'en a peut-être pas tout à fait l'assise idéologique. On a assez peu parlé de ceux qui, eux, se revendiquent comme centristes. Alors, on a évoqué François Bayrou, on n'a pas parlé, par exemple, alors c'est vrai qu'il est un peu sorti du champ politique, de Jean-Louis Borloo. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, nous sommes le 5 novembre 2013, à la Maison de la Chimie à Paris, événement politique, l'alternative vient de naître.
Crépitement de flash, hurlement des photographes pour immortaliser la poignée de main. La salle de mariage était visiblement trop petite pour cette publication des bancs centristes après 11 ans de séparation. Jean-Louis Borloo et François Bayrou sont arrivés ensemble sur scène, chacun un pupitre. C'est Jean-Louis Borloo qui a parlé le premier. Un mariage qu'il justifie face à la désespérance du pays.
Nous avons décidé de nous rassembler, de rassembler toutes nos forces face à la situation de désarroi et de désespérance de notre pays.
L'alternative Modem-UDI se veut donc une offre politique nouvelle, pas une simple alternance, une autre solution, une œuvre de construction et de réconciliation pour un peuple français qui serait entré en état de sécession, a expliqué François Bayrou, le président du Modem, qui justifie également son choix par sa déception de François Hollande.
Un reportage de Stéphane Leneuf pour Intersoir, c'était donc le 5 novembre 2013. L'alternative, alors l'alternative, ça n'était pas une formation politique, c'était une coalition électorale, mais enfin qui était censée aller loin. Je dois dire que moins de 4 ans après, j'avais un petit peu oublié son existence, parce qu'elle a fini par disparaître. Mais que sont devenus ces centristes qui se revendiquent vraiment du centrisme, Nicolas Saugé ?
Bon, il y a toujours quelques partis, hein, il y en a plusieurs, hein, que ce soit le Modem ou les anciens UDI qui se dénomment eux-mêmes centristes maintenant, qui persistent, les partis radicaux de gauche comme valoisiens persistent encore, ont des structures, mais je crois qu'ils ont perdu toute visibilité aujourd'hui. Une bonne partie d'ailleurs se rallie implicitement ou explicitement à Emmanuel Macron aujourd'hui. Et la question est celle de la pérennité, hein, si on se pose dans le temps plus long de ce que est en train de construire Emmanuel Macron.
Est-ce que enfin, vous dites, pardonnez-moi, mais vous dites une bonne partie. L'UDI de Jean-Christophe Lagarde soutient François Fillon. Les centristes d'Hervé Morin, puisque c'est comme ça que s'appelle sa formation politique, soutient François Fillon. Le Parti chrétien-démocrate, qui appartient à cette tradition de Jean-Frédéric Poisson.
Non, le Parti chrétien-démocrate, on ne peut pas être qualifié de centriste. Là, je crois qu'il ne faut pas, on ne peut pas exactement les mettre dans cette catégorie.
Est-ce qu'on n'est pas centriste à partir du moment où on se revendique du centrisme ?
Non, je crois que si on fait comme ça, on va voir faire beaucoup d'erreurs de lecture du paysage politique, tant en France qu'ailleurs. Il faut raison garder, mais je crois qu'il y a des décisions d'état-major, hein, que vous avez rappelées, qui sont tout à fait claires. Il me semble que quand on regarde les électorats, alors ils sont petits, hein, donc les conclusions sont difficiles, mais quand on regarde un certain nombre de militants aussi, les visions sont beaucoup plus partagées, et je crois que si François Fillon faisait le plein des voix centristes, il serait en meilleure posture, au moins dans les sondages. Donc on va vérifier tout ça dans 15 jours maintenant, mais le paysage est un petit peu plus compliqué que ça. Par contre, il n'est pas absolument impossible que dans 4 écrans, on ait oublié l'épisode Macron. Si jamais il devait être défait dès le premier tour de l'élection présidentielle, il est très 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 probable que lui-même se retire du jeu politique et que son mouvement disparaisse aussitôt.
Jean Garrigue.
Oui, parce que l'épisode Macron, il est quand même dans la continuité de ce que François Bayrou a essayé de réaliser depuis 2002, c'est-à-dire transgresser, là encore, la tradition d'un centre qui était sous la Ve République, pardon, le supplétif au fond de la droite et qui, en dernier recours, devenait toujours l'allié de la droite, hormis quelques exceptions et quelques exemples qui ont parsemé les élections présidentielles, les radicaux de gauche, par exemple. Mais cette idée de construire un centre par le rassemblement et non pas par l'alliance, c'est quelque chose que Bayrou avait voulu faire, qui a failli plus ou moins bien fonctionner à l'élection de 2007, où il n'est pas passé très très loin du deuxième tour, et que finalement Emmanuel Macron, là, fort de ce moment de crise profonde, de divorce et de système bipolaire à bout de souffle, et fort de son propre charisme, a pu réaliser aujourd'hui. Donc il n'est pas exclu que cette tentative de rassemblement au centre, elle, si elle échoue, donne des résultats très, très, très probants.
Sauf que si on regarde les effectifs d'élus aujourd'hui, ouais. Jean Garrigue, alors bon, Emmanuel Macron c'est un peu particulier, mais François Bayrou, le MoDem, au Parlement, ça ne représente pas grand-chose. Il vaut mieux peut-être... Enfin, en tout cas, les résultats électoraux donnent davantage raison à une stratégie comme celle de l'UDI, ou même du Nouveau Centre, aujourd'hui les centristes d'Hervé Morin, qu'à celle d'un cavalier seul qu'a pu être la stratégie de François Bayrou.
Les vieux réflexes électoraux, les vieilles traditions de partisanes sont aujourd'hui en conflit avec la dynamique de rénovation et de régénération de la vie politique. Je crois que c'est la raison pour laquelle on voit des gens Arthuis, par exemple, qui ont rejoint Emmanuel Macron. Je pense que pour beaucoup d'élus, de notables centristes, et c'est très important, la notabilité dans le monde centriste, la question se pose aujourd'hui très fortement d'aller vers Emmanuel Macron, de sentir que le moment est venu, justement, où peut se réaliser ce que François Bayrou avait souhaité. On a beaucoup parlé d'opportunités, lorsque François Bayrou s'est rallié à Emmanuel Macron en disant bon, de toute manière, il n'avait pas d'espace politique. Mais il y a aussi des questions plus profondes que ça, c'est-à-dire la conviction que on va vers une reconfiguration de la vie politique. Que justement le vieux clivage traditionnel droite-gauche, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, n'est plus valide, et que donc là, en l'occurrence, il y a pour les centristes, alors ceux qui se déterminent comme centristes, au centre de l'échiquier politique, il y a quelque chose de nouveau qui peut se créer. Et ça, c'est très intéressant parce que, je le répète, c'est quelque chose qui est en germe depuis une quinzaine d'années avec François Bayrou.
Alors prenons justement le cas de deux positionnements centristes. Vous évoquiez Jean Arthuis. Restons sur Jean Arthuis, pourquoi pas. Qui donc, lui, se rallie à Emmanuel Macron ? Et je reviens à mon Jean-Christophe Lagarde. Enfin, mon Jean-Christophe Lagarde, je ne l'ai pas privatisé. Hein. Qui, lui, soutient François Fillon. Qu'est-ce qui fait que l'un va être du côté de Macron, d'après vous, Marie-Ève Malouine, et l'autre du côté de Fillon ? Est-ce qu'il y en a un qui agit par réflexe, parce que c'est comme ça depuis quasiment les débuts de la 5e, et qu'on est une force supplétive de la droite ? Et l'autre, ça serait quoi ? Alors, par conviction, par stratégie électorale. Est-ce qu'on arrive à comprendre ce qui fait que les chemins bifurquent alors qu'ils étaient jusqu'à présent plutôt les mêmes ?
Il y a deux parcours différents. Jean Arthuis, je pense, a une expérience et peut se permettre une démarche individuelle ou en tout cas qui n'est pas collective au sens d'un parti, alors que Jean-Christophe...
Il n'a rien à perdre, vous voulez dire ?
Il a rien à perdre, il a démontré ce qu'il avait à faire, ce qu'il avait fait. Jean-Christophe Lagarde essaie de construire son mouvement et de continuer à exister. Donc sa démarche s'inscrit dans celle des Républicains, c'est la primaire de la droite et du centre. Donc il peut pas y aller tout seul parce que c'est tout son groupe qui l'entraînerait sans garantie de résultat, alors que Jean Arthuis peut aller plus simplement avec Emmanuel Macron. Mais si on compare avec François Bayrou aussi, qui va être un des problèmes posés à Emmanuel Macron, c'est que François Bayrou, il progressait dans les enquêtes d'opinion en 2007, et au dernier moment, les gens après transposent et disent « bon voilà, il est président de la République, je le désigne, avec qui gouverne-t-il » Et François Bayrou apparaissait un peu seul. La difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il est moins seul, mais il a des gens d'expérience et qu'on a déjà vu. Or, il promet le renouvellement, et le renouvellement s'incarne dans des gens qui ne sont pas connu. Donc s'il était désigné même dans les derniers temps de cette campagne, il va falloir qu'il démontre qu'il peut gouverner, qu'il a du monde autour de lui, mais que ce ne sont pas des gens du passé recyclés. Et c'est une difficulté aussi pour incarner une culture du centre, c'est d'avoir des gens qui ont une image, qui pèsent, qui disent que le centre existe et qui en même temps ne font pas des anciens recyclés, n'incarnent pas cela.
Sur la question de la bifurcation des trajectoires entre d'un côté Macron et de l'autre Fillon, alors en sortant hein, des cas précis, Arthuis et Lagarde, mais est-ce qu'on est simplement de la stratégie différenciée pour vous, Nicolas Sauger,
ou ça va au-delà ? Il y a beaucoup d'explications, hein, des questions de carrière et de parcours personnel. On en est à différents moments de la carrière et quand on a un parti, quand on est chef de parti, on va avoir tendance à vouloir préserver le parti. Quand on n'a pas de parti ou quand on n'est pas le chef, c'est un petit peu moins important évidemment. Il y a des sensibilités idéologiques différentes entre les deux. Il y a toute une série de carrières aussi. Ils sont à un stade de leur carrière extrêmement différent, on pourrait dire. Donc il y a évidemment beaucoup de raisons qui peuvent expliquer que certains choisissent l'un plutôt que l'autre. Ensuite, il y a des lectures différentes de l'avenir et de ce qui est possible ou de ce qui est souhaitable. Et je pense que là aussi, on peut avoir des lectures, on va dire, un petit peu plus optimistes de la possibilité de créer une majorité un gouvernement macroniste ou plus pessimiste sur sa capacité. Ça oriente des choix et ça, c'est pas seulement idéologique, c'est des lectures, c'est des convictions, c'est des opinions qu'on va se faire à partir des rendus de terrain. Donc là-dessus, je crois qu'il y a autant de choix que de personnes qui s'expliquent par de nombreux facteurs. Donc il faut pas essayer d'avoir une vision trop stratégique. Enfin, mais évidemment, la stratégie est aussi la profession hein, de ces hommes politiques, donc il faut pas la négliger. Mais...
J'ajouterais que ça a été un tout petit peu l'histoire du sang. Ce problème de... Je reviens au tout début de la Troisième République où j'ai encore en mémoire, pour avoir beaucoup étudié cette période, la manière dont les centristes justement se répartissaient sur l'échiquier, un peu plus à droite, encore plus à droite, mais en revenant un petit peu plus au centre, en repartant au centre. Ça a été de tout temps le gros problème justement de cet espace centriste, de ces centristes. Et on voit bien aujourd'hui que ce sont des critères essentiellement stratégiques ou tactiques qui l'emportent et que ces personnalités, les Hervé Morin, les Jean-Christophe Lagarde, etc., se déterminent en fonction de critères qui ne sont pas forcément ceux, j'allais dire, de la grande histoire, mais qui sont des opportunités politiques du moment. Et c'est vrai que tout va tourner, je pense, sur la capacité d'Emmanuel Macron à d'une potentielle élection d'Emmanuel Macron à susciter une majorité parlementaire qui soit relativement stable et relativement homogène pour donner une place à ces centristes. J'ajouterais quand même que pour ces centristes, il y a eu une primaire de la droite et du centre et qu'on a très bien vu que c'était pas leur candidat de cœur qui l'avait emporté, puisque pour la plupart, ils soutenaient Alain Juppé et une césure s'est quand même produite à ce moment-là, y compris pour Alain Juppé lui-même, mais par rapport à François Fillon.
Et d'ailleurs, donc, peut-être que s'il y avait eu et Juppé candidat et François Hollande candidat, on ne serait pas en train de parler ce soir d'un retour du centre du centrisme. Hein.
Certainement. Très, très clairement, François Bayrou lui-même, d'ailleurs, était prêt à une alliance avec Alain Juppé. Et donc, finalement, on serait revenu à quelque chose de plus traditionnel hein, dans notre histoire politique.
Nicolas Sauger ?
Tout à fait. Il faut bien, ce que je voulais rappeler, qu'il faut voir quand même cet épisode Macron comme quelque part un accident de l'histoire, hein, qui s'inscrit dans des transformations longues, c'est pour ça qu'il est possible, mais qui est dû à l'extrême faiblesse tant du Parti Socialiste que des Républicains, la faiblesse des Républicains n'était pas complètement prédictible il y a encore quelques mois. Et de ce fait, il faut voir aussi que ce que va devenir, si Macron l'emporte, hein, la stratégie de Macron, et pour venir sur des questions précédentes, la possibilité pour Macron de gouverner d'une manière ou d'une autre dépend du score de ces deux autres partis, notamment des Républicains, mais aussi du Front National. Imaginons que le Front National ait un petit groupe parlementaire qui ne pèse pas beaucoup sur le Parlement, Macron sera très en difficulté. Mais si le Front National devait avoir un bon résultat électoral au moment des élections législatives, Emmanuel Macron sera en bien meilleure posture pour construire un rassemblement contre justement ce parti, puisque aucun des autres partis n'aurait aussi la majorité. Donc il faut bien voir qu'il est complètement dépendant de la situation politique et qu'aujourd'hui on est tous autour de cette table complètement incapables de dire ce qui va se passer dans 2 mois pendant les élections législatives.
Alors qu'il bénéficie avant tout de circonstances totalement inattendues, davantage qu'une stratégie qui aurait été mûrement réfléchie, étudiée, qui lui permettrait justement de surfer, non pas uniquement sur la conjoncture, mais sur une crise un peu plus large des institutions, par exemple.
Je vais vous répondre comme Emmanuel Macron, c'est que d'un côté, il a une bonne stratégie, mais en même temps, il a bénéficié d'un alignement des planètes. Je pense qu'il a bien senti ce qui se passait avec le rejet du système, parce que c'est vrai, quand il a quitté le gouvernement en disant « je m'en vais parce que j'ai atteint les limites du système », personne n'a trouvé ça très fort. Personne n'a trouvé que c'était un argument majeur pour justifier un départ du gouvernement, alors que maintenant, c'est un argument fort de sa campagne. Il a très bien senti ce qui se passait et il a bénéficié quand même du résultat surprenant de la primaire de la droite et du centre avec la désignation de François Fillon, qui ensuite, lui-même, a été extrêmement affaibli par les affaires qui sont sorties à son sujet. Et Emmanuel Macron a bénéficié de tout cela. Mais de l'autre côté, François Fillon, lui, comprend bien maintenant, en dernière partie de la campagne, que le problème de avec qui gouverner et quelle majorité, c'est un argument en sa faveur, puisqu'il a fait la photo avec tous les candidats aux législatives pour dire « moi, j'ai tout ça derrière moi et j'ai un vrai pouvoir que je peux exercer, j'ai une vraie majorité et j'ai un parti aussi derrière moi ». Donc ça lève aussi encore plus d'incertitudes par rapport aux résultats de cette élection.
Jean Garrigue, vous évoquiez tout à l'heure le positionnement sur l'échiquier politique des centristes, avec voilà un positionnement assez variable, voire simultané. Il peut y avoir des centristes justement au centre, un peu à droite, un peu à gauche. Est-ce qu'on peut pas y voir finalement plutôt que une faiblesse, une force du centrisme et des idées centristes, sans vouloir pousser la comparaison trop loin, mais qu'on pourrait pas faire la comparaison avec les trotskistes qui font de l'entrisme et les idées centristes qui feraient de l'entrisme finalement et qui seraient au pouvoir, quelle que soit finalement la majorité.
Ou l'écologie qui se serait imposée dans toutes les familles politiques. Ah mais, ce qu'on appelle le tropisme du centre, c'est-à-dire la tendance historique de nos gouvernements, de gauche comme de droite, à revenir vers le centre, donc quelque part à intégrer, assimiler finalement ce qu'est le centrisme, c'est une constante historique, que ce soit François Mitterrand dans son deuxième mandat, Jacques Chirac qui revient plus au centre que dans ses... Même un Nicolas Sarkozy qui était parti pour nous faire une révolution néolibérale et dont on a vu qu'il revenait vers le centre. Alors je ne dis pas que tous ces gens-là étaient des centristes, mais c'est quand même une constante aussi d'identification de la vie politique française, parce que ça correspond, et c'est là que je pense que Macron n'est pas justement simplement une sorte de phénomène opportuniste ou du moment, ça correspond à quelque chose de très profond, hein, qui est aussi la volonté de créer du consensus, de créer ce qu'on disait tout à l'heure, des majorités d'idées, au fond de rassembler des modérés. L'idée de rassemblement modéré, c'est une très vieille idée aussi déjà de la Troisième République. Donc c'est quelque chose qui historiquement n'est pas totalement tombé du ciel. C'est quelque chose de très long et de très profond. Et Macron a quand même compris tout ça. Il a compris à la fois un système à bout de souffle, manifestement, à tous les niveaux, système partisan, système institutionnel. Je dis pas qu'on va aller dans la Sixième République, mais c'est un système qui ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Et il a compris aussi qu'il s'inscrivait dans une longue trajectoire historique de recherche du consensus, de la négociation, peut-être de la modération.
Nicolas Sauger, ici, la dernière législature centriste était celle qui vient de s'achever, celle de ce quinquennat-là.
Je crois pas que ce soit ni la première ni la dernière.
Hein. Enfin,
la dernière en date. Non, mais c'est absolument certain. Mais pour continuer sur ce que Jean Garrigue disait, c'est absolument certain que les gouvernements ont une tendance historique à gouverner plutôt au centre. Pourquoi? Pour des raisons de conviction, mais aussi pour des raisons de contrainte. Hein. C'est que c'est compliqué de changer les politiques publiques. C'est compliqué de les changer sur le court terme. On voit même Donald Trump n'y arrive pas forcément toujours aux États-Unis. Pourtant, Dieu sait qu'il avait une volonté de changement et qu'il y a énormément de contraintes. Et ce qu'on voit quand on fait des analyses sur alors, le moyen terme, je ne prétends pas être historien, mais c'est que finalement les gouvernements de gauche et de droite ont des petites inflexions, mais des inflexions qui restent minimes par rapport à l'ensemble des grands équilibres budgétaires. Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout d'un coup supprimer même 500 000 fonctionnaires, pour reprendre certains slogans, d'un coup de baguette magique. Hein. C'est des contraintes qui pèsent énormément. Et aujourd'hui, ces contraintes, elles pèsent d'autant plus qu'une partie des politiques publiques, elles sont contraintes au niveau européen, au niveau global, par toutes les institutions internationales auxquelles nous participons.
Et c'est peut-être bien aussi ce qui risque d'être remis en cause à travers les résultats de cette élection présidentielle, en tout cas du premier tour. Merci beaucoup, en tout cas à tous les trois, d'avoir participé à cette discussion. Marie-Ève Malouin, Nicolas Sauger et Jean Garrigue. Discussion que vous pouvez retrouver sur notre site internet, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Fanny Richer, Antoine Tricot, Louise Fuseau. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Demain, y a-t-il encore une diplomatie des droits de l'homme ? Ce sera la question que nous poserons à partir de 18h20.